tous. La grande table à l'heure européenne toute cette semaine derrière le hashtag Votre Europe. À quelques semaines du scrutin du 26 mai, quelle Europe voulons-nous? À partir de 2055, l'Union sur le divan avec la psychanalyste Elisabeth Roudinesco à l'occasion de la parution le 1er mai chez Flammarion des actes de la conférence donnée l'an passé à l'École normale supérieure intitulée Une certaine idée de l'Europe. Mais d'abord, l'Europe, seule utopie raisonnable pour le romancier espagnol Javier Cercas, l'auteur du Monarque des ombres à la rentrée dernière chez Actes Sud, chroniqueur au journal El País, revient sur ce qui fait culture commune aujourd'hui et sur la nécessité de réinventer un grand récit européen fondé sur autre chose que le grand marché. Javier Cercas, puis Elisabeth Roudinesco à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Javier Cercas, bonjour.
Bonjour.
Prix du livre européen catégorie fiction, c'était en 2016 pour votre roman L'Imposteur. Lors de la remise de ce prix devant le Parlement européen, vous avez rappelé que le roman moderne n'est pas seulement un des plus beaux fruits de cette utopie européenne, mais aussi celui qui lui ressemble le plus, son emblème parfait. La preuve en est, avez-vous dit, que ces deux traits les plus remarquables appartiennent aussi à l'Europe unie, son caractère hybride, métisse et sa nature antidogmatique. Vous vous inscrivez, vous, comme romancier, Javier Cercas, dans cet héritage-là? Vous êtes un écrivain européen?
Je pense que tous les romanciers nous inscrivons dans cet héritage, c'est-à-dire... nous sommes tous des élèves de cet homme qui incroyablement était espagnol, qui s'appelait Miguel de Cervantes, et qui a inventé ce genre qui s'appelle roman, et qui est essentiellement un genre européen. Et je suis d'accord avec moi-même, avec ce que j'ai dit dans ce discours. C'est-à-dire, vous savez, la littérature européenne existe depuis toujours. C'est-à-dire, c'est en France et en Angleterre qu'on a compris Cervantes. C'est Diderot qui a été le meilleur lecteur de Cervantes au XVIIIe siècle. C'est Laurence Sterne qui a été le meilleur lecteur de Cervantes en Angleterre. Et on ne peut pas comprendre la littérature, la culture européenne sans cette mélange d'influences. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est un système littéraire européen. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, existe une Europe unie plus ou moins politique, existe une Europe unie économique, il y a l'euro et tout ça, mais le système littéraire européen n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas une radio européenne, une opinion publique européenne, il n'y a pas une télévision européenne, il n'y a pas des débats européens. Et effectivement, existe ce prix littéraire européen. C'est le seul. Je savais qu'il existait. J'ai su qu'il existait parce qu'on m'a donné le prix. Sinon, je ne savais rien de ça. Alors, ça veut dire que ça veut dire qu'il existe évidemment le système littéraire français, le système littéraire italien, l'espagnol, l'anglais, mais pas un système littéraire européen. Existe la culture européenne, mais pas ce système.
Et ça veut dire que si, aujourd'hui, je vous demandais de me citer 5 noms de grands écrivains ou de grands intellectuels européens, vous ne pourriez pas?
Non, bien sûr.
Il n'y a que des écrivains espagnols, allemands, italiens, polonais.
Ça, c'est le problème. Je peux citer des écrivains, des grands écrivains français, italiens et tout ça. Le problème, la question, c'est s'il y a des écrivains italiens, français, espagnols qui sont rélevants partout l'Europe. Ça, c'est la question. Et il n'y a pas beaucoup de ça. C'est-à-dire, je suis un écrivain, je lis beaucoup et je peux citer. Et bien sûr, vous, sans doute, les gens qui nous écoutent. Mais ce n'est pas général, ça. C'est-à-dire, c'est très difficile de penser à un écrivain, disons, oui, je ne sais pas, peut-être Michel Houellebecq par exemple. Il est rélevant un peu partout, il est traduit partout, on parle de ses livres un peu partout en Europe, mais c'est un seul nom. C'est pas facile de trouver beaucoup de noms comme ça. Et en espagnol, bon, c'est pas facile. En italien, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, comme je disais, un système qui permet ça. Il n'y a pas, par exemple, des débats européens. Vraiment. Il n'y a pas de magasins où les idées peuvent circuler. Ils existent en France, ils existent en Espagne, ils existent, mais pas général. Non, mais vous voyez, je crois que l'Europe unie, c'est la seule utopie raisonnable que nous, les Européens, on a inventée. Quand je parle d'utopie, je ne parle pas dans le sens strict, c'est-à-dire un lieu qui n'existe pas, mais un lieu désirable. Et ça c'est parce que il y a une évidence totale, c'est le fait que, pour moi, je crois que pour beaucoup de gens, c'est le fait que l'Europe unie, c'est le seul projet politique qui peut assurer, garantir la paix, pour commencer, la prospérité et la démocratie en Europe. Et ça, c'est très évident. C'est un projet très ambitieux, énormément ambitieux. Je ne connais pas un projet dans l'histoire comme ça, c'est-à-dire deux pays très différents, avec des cultures différentes, avec des langues différentes, avec des traditions différentes, avec des histoires différentes, qui ont été en guerre constamment, parce que l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de guerre. Nous avons été constamment en guerre entre nous. J'appartiens à la première génération d'Espagnols qui n'a pas connu une guerre. Et presque la première génération d'Européens qui n'a pas connu une guerre, au moins entre les grands pouvoirs. C'est-à-dire, il y a eu la guerre de l'ex-Yougoslavie, évidemment. Alors, la paix, c'est une exception totale. Je dis la paix, la prospérité et la démocratie. OK. Et ce projet, c'est énormément ambitieux. Mais tout le monde, au commencement de ce siècle, savait que c'était les grands projets politiques de notre siècle. Tout le monde le savait. Aujourd'hui, ça a changé complètement parce que c'est venu la crise. Ça a été essentiel. Mais bon, pour moi, l'essence de ces projets et l'ambition et l'originalité totale de ces projets consiste à faire des différentes cultures, langues, etc., un seul État. La variation et l'union, vrai ? C'est-à-dire, pour moi, faire l'Europe unie ne veut pas dire, évidemment, laisser, comme il y a des gens, des démagogues qui disent non, on laisse d'être français. Les Français disparaît et l'Italien disparaît et les différentes langues, les différentes cultures disparaissent. Non, pas du tout. C'est le contraire. Pour moi, être espagnol, c'est ma forme d'être européen. Ce que je veux dire, c'est que cette variété, c'est notre richesse. C'est une richesse qu'il faut préserver. Mais ça, c'est pas incompatible, exactement le contraire, avec l'unité politique.
Les utopies raisonnables ou chaotiques sont fragiles. Est-ce que cette belle utopie, cette utopie raisonnable qu'est l'Europe, pour vous, Javier Cercas, elle n'est pas en train de se fissurer aujourd'hui,
ah oui,
justement parce qu'elle a manqué d'un grand récit, parce qu'elle a manqué de fiction?
C'est une évidence qu'aujourd'hui, après la crise, cette idée de l'Europe unie, ce projet, est en danger. Ça, c'est évident. J'ai dit des évidences. Il y a des gens qui n'est pas intéressés à ces projets. Je parle par exemple de la mairie de Donald Trump, c'est évident. De la Russie de Poutine, c'est évident. Une internationale nationale populiste qui existe aujourd'hui en Europe, c'est un peu un oxymoron, non? C'est l'internationale nationale populisme, parce que le national populisme aujourd'hui, c'est une forme de nationalisme, en fait. Non? Et ils ne sont pas intéressés à la création d'une Europe unie. Mais je crois que le pire danger, et j'y réponds à votre question, est venu de la part de nous, de les gens qui, comme moi, croient à une Europe unie. C'est-à-dire, on n'a pas été capable de faire d'un projet élitiste un projet populaire. L'Europe unie a commencé comme un projet élitiste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une élite politique, intellectuelle, qui a dit « Arrêtez, on ne peut pas se suicider une troisième fois. La destruction a été totale. » Alors, ils ont eu cette idée visionnaire de faire d'une histoire de différences et de conflits et de guerres, une histoire de paix et d'union politique. Et ça a été une idée vraiment élitiste. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle est encore une idée élitiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, le citoyen, ne voit, je crois, je crains, et je crois que c'est vérité, les citoyens, les gens normaux, ne voient pas la nécessité de cette Europe unie. Pour eux, souvent, c'est une sorte de caprice, une sorte de chose abstraite. Vous voyez, là, Bruxelles, les bureaucrates et tout ça, mais à quoi servent? Rien. Et ils n'ont pas compris que c'est pas ça, que c'est une vraie nécessité. Pour préserver, j'insiste, la paix, sans doute, la prospérité, parce que la France toute seule ne signifie rien dans le monde. C'est terrible de dire ça, mais c'est comme ça. L'Italie, l'Espagne, rien. Même l'Allemagne ne signifie rien. Économiquement, rien. Mais l'Europe unie signifie quelque chose. Il peut faire quelque chose. Et du point de vue encore plus important de la démocratie, Jürgen Habermas a insisté beaucoup à ce point, et je crois qu'il a raison. Seulement dans un capitalisme comme celui d'aujourd'hui, avec ses énormes pouvoirs, avec une manque de loi, une manque de règles, seulement un pouvoir très fort peut poser des règles à ces grandes corporations économiques. Seulement. C'est-à-dire que c'est le seul espoir du retour de la politique. Du fait que ce n'est pas l'économie qui nous gouverne. Que nous gouvernons l'économie et pas l'économie nous gouverne à nous. Et alors, ça, ce n'est pas un caprice. Ça, ce n'est pas une chose ornementale. Ça, c'est une chose réelle qui a une répercussion réelle, immédiate, sur notre vie, non? Et ce que vous peut-être appelez, je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est une fiction. Je crois que c'est une réalité, mais c'est vrai que c'est... Il nous manque une raconte, c'est-à-dire une histoire. Il nous manque quelque chose. C'est-à-dire pourquoi, après la crise, on est revenu à la grande fiction. Ça, si, c'est une fiction. C'est le nationalisme. C'est une fiction totale. Et une fiction... affreuse, une fiction très dangereuse. Je ne dirais, bon, je dis, comme disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. François Mitterrand, je dis. Et c'est comme ça. Mais pourquoi on est revenu à ça? Le national-populisme, j'insiste, c'est que c'est partout en Europe aujourd'hui, c'est le mouvement qui monte, et c'est une forme de nationalisme. En fait, on pourrait dire, j'ai dit que c'est une forme, c'est une sorte de masque postmoderne de ce qu'on appelait aux années 30 le totalitarisme ou le fascisme. Mais bon, on a revenu à ça parce que le nationalisme a une histoire très forte, a une raconte très forte. Et les démagogues peuvent utiliser ça pour donner des sécurités illusoires, fausses sécurités, à les gens normaux. Je suis français, je suis italien, je suis espagnol, et ça me donne une sécurité. Mais c'est une sécurité complètement fausse. C'est illusoire, c'est pas vrai.
Il y a un an et demi, vous, le catalan Javier Cercas, vous aviez qualifié de coup d'État la proclamation unilatérale d'indépendance du gouvernement catalan, basée selon vous sur une fable narcissique, une autofiction complaisante et mensongère. La fable, c'est aussi ce que disait un écrivain qui vous est cher, Mario Vargas Llosa.
Je crois que le nationalisme catalan, comme pratiquement tout le nationalisme est une création artificielle qui va contre l'histoire, qui est une fabrication fictive qui a manipulé l'histoire d'une manière grotesque pour justifier, n'est-ce pas, l'idée de qu'il y a un passé dans lequel la Catalogne existait comme une espèce de paradis terrenal. C'est faux. La Catalogne n'a jamais été indépendante dans le passé. Dans le passé très remote, faisait partie de la France. Et après, ça fait déjà 500 ans, 5 siècles, fait partie de l'Espagne. Et je crois que ça fera partie de l'Espagne pour toujours. Une Espagne qui va se dissoudre petit à petit dans l'Europe, si l'Europe réussit, comme je crois, tous les démocrates de l'Europe et du monde, l'espérons.
Voilà, le prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, péruvien devenu espagnol. Voilà, on choisit aussi ses identités autour de la Catalogne. Vous êtes d'accord avec cela? Que raconter cette histoire, cette autofiction, cette fable narcissique qui vous est interpellé, vous, Javier Cercas?
Oui, je suis catalan. J'habite à Barcelone. Mais vous voyez, je voudrais dire ça. Je suis d'accord avec Vargas Llosa. Je voudrais dire ça. Le problème de séparatisme catalan n'est pas seulement un problème catalan. Pas seulement un problème espagnol. C'est un problème européen.
Mais avant d'y venir, quelle était la fable qui a été racontée instrumentalisé, nourri aussi par les politiques.
Ah non, non, c'est cette fable, on peut Vargas a dit ça, non, c'est la fable toujours du nationalisme. C'est l'invention d'une histoire, par exemple, que tous les Catalans veulent l'indépendance, par exemple. C'est plus de la moitié des Catalans qui ne veulent pas l'indépendance. Alors c'est complètement faux. La fable que les Espagnols ont toujours été contre les Catalans, c'est complètement faux. En fait, l'Espagne moderne a été construite par les Catalans. La fable que les Catalans sont tous des gens, nous sommes tous des gens pacifiques, tout, non, c'est pas vrai. Notre histoire est aussi une histoire de conflits, de guerres, tout ça. La fable, c'est énorme. Et que la Catalogne était indépendante jusqu'en 1714. Je dis bien en français les numéros. Bon, c'est complètement faux. La Catalogne n'a jamais été indépendante. Il y a énormément de fables. Mais je voudrais dire ça, je voudrais dire, c'est pas un problème seulement catalan, c'est pas un problème seulement espagnol, c'est un problème européen. Et pour comprendre ce qui s'est passé en Catalogne, c'est très simple. C'est pas différent de ce qui s'est passé en Europe, je dirais en Occident. C'est-à-dire, la crise de 2008 a été un mouvement sismique énorme, terrible, qui a changé absolument tout, qui a commencé la crise de l'Europe. Ok? Ça, c'est très évident. Un mouvement énorme, terrible, seulement comparable à ce qui était la crise de 1929. Et on sait très bien que la crise de 1929 a fini avec la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et a été ce qui a porté le totalitarisme à son pouvoir et finalement à la guerre. Okay. Cette crise a provoqué aussi un énorme mouvement sismique qui a eu des manifestations diverses dans les pays, parce que les pays ont des histoires, des traditions. Ok. Alors, cette manifestation, la plus visible, c'est M. Trump aux États-Unis. Mais il y a d'autres manifestations. Par exemple, le Brexit en Angleterre. Par exemple, Salvini en Italie. Par exemple, ici en France, le Front National existait déjà, mais ça a été encore plus fort. Alors, un peu partout. La première manifestation de ce national-populisme, on peut l'appeler comme ça, c'est un nom très juste pour moi, c'était le séparatisme catalan. Et il y a une caractéristique commune, par exemple, une très importante. Il y a quelqu'un qui est le coupable de tous nos maux. C'est-à-dire, le responsable de le mal de l'Angleterre, c'est l'Europe. Et c'est pour ça que les Anglais veulent partir. Le responsable de tous les maux de l'Amérique, selon M. Trump, sont les étrangers qui entre ici en Amérique et tout ça. Et le responsable de la crise de la Catalogne et de tout, selon les séparatistes, c'était l'Espagne. L'Espagne, c'est le démon, c'est le grand mal. Alors, il faut comprendre cette crise dans ces termes. Alors, ce n'est pas une crise seulement catalane, c'est une crise générale.
Alors, 2 ans plus tard, l'Espagne ne s'est pas désintégrée, elle est restée une. 2 ans après cette crise catalane, mais surtout 10 ans après la crise financière et les politiques d'austérité qui lui ont aussi succédé, avec, si on évoque le cas de l'Espagne, une jeunesse assez désenchantée, un taux de chômage quand même des plus élevés d'Europe, 34% l'an passé en Espagne. Comment les Espagnols abordent ce scrutin du 26 mai? Avec des intérêts, avec colère, avec espoir?
Les élections? Ah, je ne sais pas. Il n'y a pas une seule façon de l'affronter. Ce qu'on a vu aujourd'hui, peut-être c'est la nouveauté, c'est le fait que en Espagne n'existait pas l'extrême droite jusqu'à ces moments. C'est-à-dire, ça a été très étrange. Les politologues de tout le monde disaient aux politologues espagnols, et pourquoi n'existait pas l'extrême droite en Espagne? Ça existait partout, en France, évidemment, en Italie, partout, en Europe. Et tous les éléments existaient pour l'apparition de cette extrême droite. Et aujourd'hui, ça existe. Et on verra quelle est sa force. C'est-à-dire, il y a eu des élections régionales en Andalousie qui ont donné un résultat vrai, un résultat important à cette extrême droite qui n'existait pas. À ce nationalisme espagnol qui n'existait pas. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça est paru? C'est très simple, parce que contre un nationalisme fort, apparaît un autre nationalisme fort. C'est-à-dire, le nationalisme a besoin d'ennemis. Sans ennemis, n'existe pas. Alors, le nationalisme catalan a été très dur à briser la convivence, à briser la constitution, à briser à être en attaque contre la démocratie au nom de la démocratie, énormément pervers. Et alors, de l'autre côté, est paru un autre nationalisme. Le nationalisme espagnol, qui a été toujours là, un peu endormi, alors s'est réveillé. Ça, c'est, je dirais, ce qui fait ces élections différentes. Pas de ce qui se passe en Europe. Ça, c'est ce qui se passe en Europe. C'est la même chose. La dynamique, disons, politique en Espagne, ce n'est pas différent de la française. Et je crois que la française n'est pas essentiellement différente de l'italienne et du reste. Ça fait partie du même mouvement, avec des nuances différentes.
Et quel besoin on a pour vous aujourd'hui d'Espagne, de France ou d'Allemagne? Est-ce qu'on pourrait pas aussi décréter que les États-nations sont morts, ce qui nous débarrasserait peut-être de ce que vous semblez percevoir comme un danger, ce nationalisme, et de dire tous ensemble, vive l'Europe des régions?
Je crois à une Europe fédérale, une fédération.
D'États, pas de régions.
Parce que les États sont là. Mon aspiration, c'est à une dissolution politique des États. Pas des cultures, pas des langues, pas... Non. Les États sont là. On ne peut pas changer tout d'un coup. Il faut changer peu à peu. Et alors, oui, ça c'est... Je crois que c'est la seule solution un peu raisonnable de tout ça.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
La fiction sauve, la réalité tue, peut-on lire dans l'imposteur, division radicale presque du monde entre ces deux partis pris, la fiction, la réalité, Javier Cercas. En même temps, on peut pas vivre éternellement dans un monde de fiction, un monde imaginaire. On peut aussi imaginer que la fiction peut-être aussi aider à sauver le réel. Est-ce que c'est aussi ce qui vous guide, vous, dans l'écriture de vos romans?
Je crois que la fiction... on a besoin de la fiction pour vivre. Comme dit le vers de T.S. Eliot, « Humankind cannot bear too much reality », c'est-à-dire la nature humaine ne peut pas supporter trop réalité, parce que la réalité, c'est dur, c'est ennuyante, c'est insuffisante aussi. Mais on a besoin de la réalité. Et la fiction, c'est énormément utile. Quand j'étais jeune et je voulais être un écrivain postmoderne, j'ai pensé que la littérature, un postmoderne américain, si possible, que la littérature n'était pas utile. Aujourd'hui, je crois qu'elle est énormément utile. Si elle ne veut pas l'être, si elle veut être utile, alors elle devient pédagogie ou elle devient propaganda. Et alors, elle arrête d'être... littérature. Mais la fiction, c'est une forme de comprendre la réalité. La fiction n'est pas seulement entertainment. Bien sûr qu'elle doit l'être, non ? Entertainment, c'est-à-dire divertissante, tout ça. Mais elle peut faire d'autres choses. Elle peut nous illuminer moralement, même politiquement. Elle sert paradoxalement à enrichir la réalité, à la faire plus complexe. Et à faire la vie plus intense et plus intéressante.
Et notamment en se réappropriant le passé. Parce qu'on parlait d'héritage, de filiation littéraire. Il est aussi question dans votre dernier roman, Le Monarque des Ombres, publié chez Actes Sud, de mémoire. C'est un roman qui est bâti autour de cette figure de votre grand-oncle maternel, mort en 38 sous l'uniforme franquiste. On peut dire qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de s'en détacher. C'est pas le parti que vous avez pris, vous, Javier Cercas. Pourquoi avoir choisi d'affronter, donc de vous ressaisir de ce passé qui vous faisait rougir de honte, comme vous l'avez écrit?
Parce qu'on ne peut pas échapper de son passé et de son héritage. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire, nous avons tout, du point de vue personnel ou collectif, un bon héritage et un mauvais héritage. Tous. Et c'est très facile. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le bon héritage? Pas de problème. On sait bien qu'est-ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les mauvais héritages? Parce qu'on ne peut pas dire « je ne veux pas cet héritage ». Non, non. Ma famille est moi-même. Je suis ma famille. Je suis ces mauvais héritages. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'édulcore, on les cache, on invente une autre passé, qu'on faisait l'imposteur, le protagoniste du roman précédent. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est pour commencer les connaître et après les comprendre. Et comprendre ne veut pas dire justifier, veut dire exactement le contraire. C'est donner les instruments pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Si on connaît son passé et on le comprend, son propre héritage, son propre passé, on peut les gouverner. Sinon, si on ne les comprend pas, si on ne les connaît pas et on ne les comprend pas, c'est cet héritage qui nous gouverne à nous. Et alors, on est en train de répéter tout le temps les mêmes erreurs. Et malheureusement, je pense que c'est exactement ce qui nous passe, ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Qu'on est en train de répéter les mêmes erreurs qu'on a fait aux années 30, évidemment. Et pour ça, j'insiste, je ne parle pas du passé, je parle d'un passé qui n'a pas passé encore. D'un passé qui est une dimension du présent sans laquelle le présent est mutilé. Et c'est pour ça que avec ce livre, je voulais faire ça. Le passé de ma famille, je ne suis fier du fait que ma famille, pas du tout. En fait, me faisait rougir de honte, comme vous lisez. Le fait que ma famille était franquiste, au commencement de la guerre, au moins, et que l'héros de ma famille était ce jeune homme qui était un fasciste, un idéaliste, qui allait à l'arrière, et qui est mort à la bataille de l'Ebre, que c'était la dernière et plus cruelle bataille de la guerre espagnole. Je n'étais pas heureux de ça. Je n'étais pas fier de ça. Mais c'était ma famille, c'était mon héritage, c'était mon pire héritage. Comme en certains sens, c'est le pire héritage de mon pays, la guerre et la dictature. Et ce que je voulais faire, c'était ça, c'était le connaître. C'est pas facile connaître le mauvais héritage, parce que tout le monde le cache. Spécialement le passé, le pire héritage personnel. Et je voulais les connaître, et je voulais les comprendre, pour ça. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup à vous, Javier Cercas. Merci, Le Monarque des Ombres. Votre dernier roman, traduit et publié en France, chez Actes Sud. Et donc traduit, on va peut-être donner le nom de votre traducteur, Alexandar
Grujicic.
Merci beaucoup à vous.
Non, merci.